Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Anthony Thomasson. L'a-t-il vraiment dit ? Et s'il l'a vraiment dit, l'a-t-il vraiment pensé ? François Hollande, le président qui disait ne pas aimer les riches, n'aimerait pas non plus les pauvres. Les réseaux sociaux se gargarisent depuis une semaine de l'expression « les sans-dents ». Moquerie, indignation, mais comment peut-on parler ainsi des plus démunis ? Alors on notera toutefois que cette vague de réprobation ne s'est pas accompagnée d'un intérêt médiatique plus poussé pour ces populations. Les statistiques de l'INSEE publiées hier et qui témoignent à la fois du recul du nombre de pauvres en France et d'une augmentation de l'intensité de la pauvreté, ces statistiques n'ont eu droit qu'à de maigres développements. Question de saison, peut-être il faut en général attendre les premiers grands froids pour que le sujet soit approfondi. Alors, le fait d'en parler ce soir ne nous rend pas plus vertueux ni moins hypocrites à l'égard de cet individu, le pauvre, qu'on ne sait pas très bien comment aborder. Et c'est justement notre rapport à la pauvreté que nous allons examiner ce soir et les nombreuses idées reçues autour de ce thème. Savons-nous parler des pauvres ? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter. Jean-Christophe Sarraud, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Feuille de route Quart-Monde, qui est le magazine de l'ONG ATD Quart-Monde. Vous êtes le co-auteur d'En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, publié aux éditions de l'Atelier. J'ai dans les mains la version 2013. Il y a une version enrichie qui sortira début octobre, toujours chez le même éditeur. Les idées reçues sur la pauvreté, ce sera évidemment un des sujets de notre discussion ce soir que vous allez mener avec Axel Brodier-Dolino. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous trouvez en duplex des bureaux de Radio France à Lyon. Vous êtes historienne, chargée de recherche au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, directrice adjointe de la revue Le Mouvement Social. Vous avez publié aux éditions du CNRS l'an dernier « Combattre la pauvreté, vulnérabilité sociale de 1880 à nos jours ». Et puis notre troisième invité, Julien Damon, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, professeur associé au master d'urbanisme de Sciences Po. On vous doit au PUF en 2010 « Éliminer la pauvreté, zéro pauvre, c'est possible ». Et puis réédité cette année dans la collection « Que sais-je ? L'exclusion », la première édition datée de...
Je ne m'en rappelle plus.
Eh bien, moi non plus.
Voilà.
Voilà, ça nous fait un point commun à tous les deux. Julien Damon. Alors, je dois peut-être une précision d'abord à nos invités. Enfin, vous le savez qu'au début, lorsque nous vous avons joint, c'était avec un autre titre d'émission, avec une autre problématique, bon, qui n'est pas très éloignée de celle que nous avons retenue pour ce soir, mais on avait intitulé l'émission « Pourquoi n'aimons-nous pas les pauvres ?» Et puis, je dois dire que ce titre, à l'intérieur de France Culture, a suscité des réactions assez négatives en disant « Pourquoi finalement est-ce qu'on nous inclut là-dedans ? Comment est-ce que vous pouvez dire qu'on n'aime pas les pauvres ? Est-ce que ça vous étonne finalement, Jean-Christophe Sarraud, qu'un tel titre ait pu susciter des réactions assez contrastées au point qu'on décide d'en changer ?
Il faut voir ce qu'on entend par cette phrase. Est-ce qu'on parle de la pauvreté, la situation de pauvreté ? Effectivement, personne ne peut aimer la pauvreté. Et, étant donné tout le gâchis qu'elle provoque et tout ce qu'elle détruit... partout.
On pensait davantage aux individus, hein, c'est-à-dire finalement la difficulté qu'on peut avoir à vivre à côté des pauvres et avec les pauvres.
Voilà. Alors est-ce qu'on aime ou pas des gens ? Ça dépend de la façon dont on les connaît, dont on les fréquente, dont on les côtoie. Effectivement, on vit dans des mondes tellement séparés qu'on peut dire que des murs nous séparent des personnes en situation de grande pauvreté ou de pauvreté et que quand on ne connaît pas les gens, on se fait des films sur eux. Il y a un sociologue du 19e siècle, Charles Booth, qui disait en parlant des pauvres de Londres qu'on s'imagine, on pense aux gens en s'imaginant des représentations comme si on avait tiré entre eux et nous un rideau sur lequel on avait peint des monstres. Mais en fait, quand on soulève le rideau, on s'aperçoit que c'est des gens qui ont les mêmes aspirations que nous, qui veulent vivre dans la même société que nous et qui ont leur capacité et leur énergie souvent détruites, mises à mal par les conditions de vie qui supportent. Ouais.
Qu'en pense un sociologue du 21e siècle, Julien Damon ?
Alors, je pense que ce titre, « Pourquoi nous n'aimons pas les pauvres ?», était en effet problématique, pas seulement dans les couloirs de France Culture, mais en général. D'abord parce que ça fait évidemment référence à la polémique autour de quelques propos nauséeux attribués au probablement maladroitement d'ailleurs et méchamment au président de la République, donc c'est pas la peine d'en mettre une couche dans le Marigot. La deuxième chose, je pense, là pour lancer le débat, c'est parce qu'en réalité, notamment en France et au XXIe siècle, on les aime beaucoup les pauvres. Je caricature, je force le trait, mais par rapport au XIXe siècle que l'on vient d'évoquer, par rapport à 1988, avant qu'il y ait la mise en place du RMI par exemple, nous ne sommes absolument plus dans la même situation. Il est toujours difficile d'être en difficulté, il est toujours insupportable de vivre dans la pauvreté, de ne pas avoir accès à la consommation, mais il n'y a jamais eu autant de dispositions pour tenter d'aider, peut-être maladroite, peut-être insuffisante, les gens en difficulté.
Axel Brodier, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Julien Damon, les pauvres, on les aime beaucoup aujourd'hui, si on compare avec la façon dont on pouvait les considérer il y a quelques décennies, il y a quelques siècles.
Alors,
ça dépend de l'époque à laquelle on fait référence, peut-être.
Ça dépend de l'époque à laquelle on fait référence. De façon générale, effectivement, il y a toujours eu des bons pauvres et des mauvais pauvres. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que jusqu'aux années 1945, à peu près, on a une approche très, très prosélyte du pauvre. Et quand on les aime, c'est pour son propre salut. Et depuis 1945, petit à petit, les mentalités ont énormément évolué. Et les associations sont quand même là pour témoigner qu'on aime les pauvres. Elles n'ont jamais été aussi florissantes aujourd'hui. Vous regardez les taux de dons, les taux de bénévolat, etc. On a vraiment quand même une approche beaucoup plus empathique et bienveillante, voire compréhensive de la pauvreté et pas du tout, plus du tout prosélyte. Voilà.
Axel Brodier, comme on a un petit peu communiqué avant l'émission pour préparer ce qu'on allait se dire ce soir, vous évoquiez les débuts du christianisme en disant finalement, alors à cette époque-là, alors là on n'est plus au 19e siècle évidemment, mais le pauvre a un statut, a presque une utilité au sein de la société, il est parfois magnifié, c'est évidemment lié à la figure du Christ.
Mais c'est pas que au début du christianisme au IVe siècle, c'est jusqu'au XIXe siècle et l'apogée à mon avis c'est le XIXe siècle. On se sert du pauvre pour faire son propre salut. Le pauvre c'est l'image du Christ sur terre, voire quasiment son incarnation. Et donc il intercède avec Dieu et quand on lui donne un petit peu d'aumône, eh ben on gagne son salut. Et c'est de façon très très explicite dans les mentalités jusqu'au début du XXe siècle.
Jean-Christophe Sarrault, on aime beaucoup les pauvres aujourd'hui ?
Bah peut-être, mais ça ne va pas quand même jusqu'à envisager de changer la société avec eux, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Si on regarde, on pense à la place des gens. Et c'est beaucoup ce que je trouve qu'il faudrait inventer d'urgence. C'est des projets de territoire et de communauté localement qui incluent tous les gens. Y compris ceux à qui on ne demande jamais leur avis, mais qui vont casser les peurs et les représentations qu'on a sur les gens, parce qu'enfin, on va...
Parce que vous dites, en gros, oui, peut-être on les aime, c'est-à-dire qu'on s'en occupe, mais à distance.
Oui, mais on parle à leur place, et puis on lance des programmes et des mesures qui, finalement, ne les touchent pas tellement, parce qu'ils n'adhèrent pas, et ça a été réfléchi sans eux dans la plupart des cas. Alors, il y a quand même des exemples de communes, d'associations ou d'institutions qui prennent le temps, qui se disent que le problème, ce n'est pas seulement de vouloir agir avec les personnes, mais c'est aussi de réfléchir à comment et de mettre en œuvre des moyens pour travailler ce comment, hein, et qui réussissent des choses fantastiques. On voit bien à TD Quart-Monde, dans des lieux où on agit avec les personnes, que ce soit des universités populaires Quart-Monde, des bibliothèques de rue, des co-formations ou des professionnels, et des personnes en situation de grande pauvreté réfléchissent ensemble à ce qu'il faut changer dans la pratique des uns et des autres pour que ça se passe mieux, et ben là on peut parler d'une vraie conception de bout d'une société nouvelle et qui apporte effectivement des choses qu'on n'aurait jamais imaginées sans eux. C'est en confrontant le savoir d'expérience et de vie des personnes qui endurent et qui supportent des conditions de vie insupportables avec le savoir des politiques, des professionnels, qu'on arrive à imaginer des choses nouvelles. Parce qu'avec les solutions qu'on a actuellement, c'est clair, on n'avance pas beaucoup.
Julien Damon, votre livre s'intitule toujours « Éliminer la pauvreté ». Faire participer davantage ceux qui sont concernés directement par ce problème, ça fait partie de la solution ?
Probablement. Dans les discussions d'experts internationaux sur la lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale, il y a une formule qui n'est pas fausse, c'est qu'il y a largement plus d'un milliard d'experts de la pauvreté et qu'il est utile de leur demander exactement ce que sont leurs situations, ce que sont leurs aspirations. J'aimerais raconter une toute petite histoire pour aller dans le sens de ce qui vient d'être évoqué. Il se trouve que je suis enseignant, mais je suis d'abord bureaucrate et j'ai eu l'occasion d'être rapporteur général du Grenelle de l'insertion, qui était en 2007 un moment de mise à plat et en commun des associations au MEDEF en passant par les syndicats de nos politiques de lutte contre la pauvreté et visant l'insertion. Et on m'avait dit, parmi les différents groupes dont il faudra s'occuper et dont il faudra faire sortir des propositions, il y aura un groupe de personnes concernées, avec un problème toujours qui est de savoir que représentent-ils véritablement. Et j'étais là, au départ, ils vont être autour de la table, on va les écouter religieusement et en sortant une larme à l'œil, et puis on ne saura pas quoi en faire. Mais mon expérience, c'est que c'est de ce groupe qu'on a tiré les propositions les plus intéressantes. Parce qu'ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Ah, monsieur Damon, on passe des heures à discuter et on ne comprend rien. » J'ai dit « Vous savez, en réalité, personne ne comprend rien parce que c'est devenu si compliqué qu'on fait semblant de comprendre et on s'accorde sur des grandes phrases. » J'ai dit « Oui, mais nous, on a des propositions. » Par exemple, ils disent « On passe notre temps à être évalué par les travailleurs sociaux. Nous, on aimerait bien évaluer nos travailleurs sociaux. » J'ai dit ça c'est génial et ça a été la première proposition qu'on a faite qui n'a pas été suivie des faits.
Alors je me tourne à nouveau vers notre historienne Axelle Brodier. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, pour poursuivre un petit peu sur les réflexions là qu'on a depuis quelques minutes, que si aujourd'hui on aime beaucoup les pauvres, être pauvre c'est beaucoup plus excluant que ça ne pouvait l'être à d'autres époques?
Je ne sais pas exactement, mais je voudrais quand même revenir sur le fait qu'on aimerait beaucoup les pauvres. C'est pas vrai.
On avait compris, aimer beaucoup les pauvres, c'est-à-dire en tout cas s'en occuper. Il y a beaucoup d'associations, il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour venir, pour combattre la pauvreté. C'est cet aspect-là, je pense, qui était...
Je pense pas que ce soit plus excluant. Aujourd'hui, les pauvres sont beaucoup plus intégrés. Ils ont tout un tissu d'associations, ils ont tout un tissu législatif. Il faut voir comment la législation s'est développée depuis le début du XXe siècle. Avant, il n'y avait rien du tout. L'État n'intervenait absolument pas. Les grandes lois sociales, c'est à partir de 1893-1905. Et à mon avis, le RMI, c'est un tournant fondamental dans l'approche du pauvre, parce que jusqu'avant, on ne l'a pas encore bien développé. Mais dans cette question de la perception du pauvre, il faut bien voir qu'on a toujours considéré qu'il y avait des bons pauvres et des mauvais pauvres. Et ça, ça date du Moyen-Âge. Les bons pauvres, c'est ceux d'abord qui sont d'ici, qui sont de chez moi, qui sont de mon village, aujourd'hui qui sont de la France, pour parler très clairement. Et les mauvais pauvres, c'est ceux qui sont d'ailleurs. Et le deuxième critère important, c'est dans quel état de santé vous êtes. Si vous êtes valide, vous n'avez qu'à vous mettre au travail. Si en revanche, vous êtes invalide, parce que vous êtes vieillard, infirme, incurable, etc., la société a le droit de vous protéger.
Et ça, la société et les lois, elles font le distinguo entre les bons et les mauvais pauvres?
Les lois le font très très clairement. Tout l'édifice de la protection sociale française jusqu'en 1988, c'est-à-dire le RMI, on pourrait mettre la loi sur le chômage de 1958 un petit peu dedans, mais et encore, c'est uniquement les bons pauvres qui sont visés. C'est les vieillards, les infirmes, les incurables, les handicapés, les femmes en couche, etc. Les autres, c'est le système de l'assurance qui doit s'en occuper. C'est la sécurité sociale, c'est les allocations familiales et basta. Et vous n'avez qu'à vous mettre au travail. Et donc, la loi, elle a explicitement visé uniquement les bons pauvres. Et le critère de résidence a toujours été historiquement inscrit dans la loi. Vous êtes pauvre d'à côté, mais vous allez voir la commune d'à côté pour aller vous faire référencer. Et surtout, venez pas chez nous. Donc, ce critère, il est consolidé par les pouvoirs publics et complètement assumé jusque, à mon avis, au RMI, qui est une rupture fondamentale. Parce que pour la première fois dans l'histoire française, que vous soyez en bonne santé ou pas en bonne santé, si vous êtes démunis, si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes au chômage, etc., vous avez droit à l'assistance sans discrimination. Et ça, c'est vraiment un renversement de regard fondamental sur le pauvre et sur la pauvreté, qui est un tournant de mentalité que je pense qu'on ne soulignera jamais assez.
Julien Damon.
Même s'il y a des régressions aujourd'hui.
Je suis à 100% d'accord et Axelle vient de dire mieux que moi ce que j'aurais souhaité dire sur l'évolution, la trajectoire de notre protection sociale, dont on ne dit pas assez que ça n'est que depuis très récemment que l'on se préoccupe explicitement de pauvreté et que l'on s'en préoccupe sans cette distinction historique du bon et du mauvais pauvre, du mendiant digne, du mendiant indigne. Même si dans l'ensemble de notre politique publique, c'est bien cela. Et dans l'ensemble de nos comportements individuels, nous avons aussi ce sujet. Lorsque nous reprendrons les uns ou les autres le métro, pour ceux qui sont parisiens après cette émission, pour les autres qui ne sont pas dans une ville où il y a le métro, qui se promèneront dans les rues, ils seront sollicités par des gens en difficulté. Et ils auront à choisir, et ceci en fonction de critères moraux, politiques, qui sont individuels, et qui font qu'à quelqu'un on donnera, à quelqu'un on ne répondra pas, à quelqu'un on dira, de quelqu'un on se dira, tiens, il est légitime que je puisse tenter de faire quelque chose, ou que j'appelle à ce qu'on fasse quelque chose, et pour d'autres on dira, bah lui, feignant, ou trop jeune, ou trop vieux, selon nos catégories. Et pour les politiques publiques, c'est simple, hein. En hiver, on pleurniche et on veut héberger les sans-abri, en été, on fait des arrêtés anti-mendicité pour les repousser. Je caricature à l'extrême, mais c'est ça, les bons et les mauvais pauvres. C'est souvent les mêmes, finalement, mais à différents moments de l'année, en fonction des différentes catégories de personnes, en fonction de nos humeurs individuelles, on les catégorise différemment.
Jean-Christophe Sarrault. Oui, je dirais aussi que le bon pauvre, c'est celui qui va rentrer rapidement dans des schémas qui ont été conçus par d'autres pour l'aider à sortir de la pauvreté. Et le mauvais pauvre, c'est celui qui ne va pas rentrer rapidement dans ces schémas-là, parce qu'il va remettre en cause aussi, comme on disait, des modes de fonctionnement, et qu'il faut du temps pour rétablir une communication qui a été coupée souvent depuis la naissance avec la personne.
C'est celui dont on considère qu'il ne fait pas les efforts suffisants pour sortir de la pauvreté ?
Voilà, quand on met les gens dans des parcours d'insertion qui doivent suivre des stages, des formations, mais qu'au bout, il n'y a pas d'emploi et qu'on fait retomber la faute sur eux, ça c'est insupportable. Parce que déjà, à la souffrance que représente le chômage de longue durée, on rajoute celle de la culpabilité de la personne. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut du temps aussi pour établir ces liens coupés avec les personnes qui, depuis l'enfance, pensent que leur pensée ne vaut rien, elles sont incapables, même incapables d'élever leurs enfants, incapables de travailler. Et que moi, je me rappellerai toujours l'exemple de cette personne dans une université populaire carmande où la pédagogie est conçue pour donner la place en premier aux personnes les plus en retrait et qui a mis 2 ans avant d'oser ouvrir la bouche parce que depuis tout le temps, on lui avait fait comprendre que sa pensée était nulle et n'avait aucune importance. Et quand elle a ouvert la bouche et qu'elle s'est aperçue que personne ne se moquait d'elle, ça a changé sa vie. Et ça, dans les programmes, je pense que c'est... Dans les discours, on veut la participation des gens. Dans les programmes, c'est écrit dans les décrets, dans les lois. Mais après, comme on est tous dans des objectifs, alors parfois du chacun pour soi, mais en tout cas à court terme, et que on voit plus notre avenir dans des destins séparés que dans un destin collectif, mais qui prend beaucoup d'énergie et d'écoute mutuelle pour le mettre en œuvre, on ne prend pas ces moyens-là pour rétablir cette communication coupée, et c'est ça qui permet d'inventer des nouvelles solutions.
Alors, une des solutions qui est envisagée par ATD Carmonde et par un certain nombre d'associations, c'est de créer un critère de discrimination lié à la précarité sociale. Alors, pour faire vite, en général, on parle de, voilà, ça serait une sorte de délit de racisme anti-pauvre. Est-ce que ça, vous pensez que ça peut contribuer à améliorer la communication ? Est-ce que ça risque pas, au contraire, d'éloigner encore davantage ceux qui ne sont pas pauvres des pauvres ?
Bah, l'idée, c'est pas d'aller vers une pénalisation du discours anti-pauvre. Les pauvres, ils vont pas aller au tribunal parce qu'on leur a refusé un logement ou un accès à un service. C'est d'abord que la société et chacun de ses membres, y compris à l'école, dans les entreprises, on prenne conscience de la façon dont on parle des pauvres ou dont on les traite. On a fait un testing il y a 1 an sur la recherche d'emploi, on a vu que quand on a un marqueur de pauvreté sur son CV, que ça soit j'habite dans un centre d'hébergement ou j'ai passé 2 ans dans une entreprise d'insertion, on a 30% de chances de moins d'obtenir un entretien d'embauche pour un poste de caissier en grande surface. Donc ça, c'est pas normal. Il faut que les entreprises et certaines qui ont retravaillé leurs critères d'embauche se sont aperçues qu'elles écartaient des personnes et qu'avec leurs nouveaux critères, elles acceptaient des personnes qui étaient plus motivées et ne partait pas, ne quittait pas rapidement l'entreprise. Donc l'idée de cette discrimination, c'est qu'on prenne conscience et puis que certains discours quand même qui vont parfois loin au niveau politique, on a entendu un maire d'un arrondissement proche d'ici dire que si on crée du logement social dans son arrondissement, ça pouvait représenter un problème de sécurité, que là, on aille peut-être jusqu'au tribunal parce que ça, c'est répréhensible.
C'est une bonne idée pour vous, Julien Damon ?
Alors, c'est là où il va y avoir débat. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc, on peut en discuter. Pourquoi ? Parce que si on devait faire de la pauvreté un critère ou un chef d'accusation au titre de la discrimination, il faudrait bien dire ce qu'est la pauvreté. Et alors là, on en a pour des années de bagarre, et si tant est qu'on arrive à se mettre d'accord sur un texte qui décrirait l'ensemble des critères de la pauvreté, ce texte ferait l'ensemble de la société française.
Donc, on va voir sur le site de l'INSEE qui nous dit que c'est 60% du revenu médian.
Voilà, si on prend les derniers chiffres de l'INSEE, 60% du revenu médian, en effet, déjà je pense qu'une grande partie de nos auditeurs qui n'aiment pas les règles de droit ne voient pas exactement ce que c'est pas grave du tout, et surtout c'est des chiffres pour 2012. Donc celui qui est pauvre aujourd'hui, n'aurait pas été en 2012.
Ça fait 987 euros par mois, voilà. En 2012.
Voilà, oui, en niveau de vie, et donc ça ne correspond pas exactement au salaire et au revenu, donc on ne peut absolument pas prendre ce critère. La deuxième chose plus importante sur ce sujet de la discrimination anti-pauvre, c'est qu'on peut être pauvre, classe moyenne inférieure, classe moyenne supérieure, riche, et être maltraité. Et à ce titre, il y a tout un appareil juridique, un corpus juridique qui vous permet d'aller devant les tribunaux et de vous plaindre. Sur ce que vous évoquiez, le cas de cet élu qui a des formules peut-être discutables, je ne vois pas en quoi c'est répréhensible qu'il dise « Ah bah oui, si on fait du logement social, ça risque d'induire de l'insécurité. » C'est peut-être faux, c'est peut-être pas bien, mais je ne vois pas en quoi c'est contestable au point de pouvoir être traîné devant un tribunal. Voilà. Donc, à ce sujet, j'ai beaucoup entendu parler avec ATD Quart-Monde qui avance cela. Je pense que ce n'est pas une des meilleures idées qu'a eu ATD Quart-Monde. Voilà.
Et puis, c'est un peu contradictoire avec votre livre, En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Vous insistez bien davantage sur la pédagogie, pas sur la sanction.
Oui, encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller au tribunal. Les pauvres, ils vont pas au tribunal.
Oui, mais les associations peuvent y aller à leur place.
Oui, mais étant donné l'état des tribunaux en France actuellement, c'est pas une façon très efficace de procéder. Alors, c'est vrai que les critères de pauvreté, ils sont pas uniquement matériels et financiers. Il faut vraiment pas s'arrêter à la définition de soi. On est à moins de 60% du revenu médian en France, on est pauvre. Il y a aussi toute une part de dimension non matérielle. Et pour les gens, ça veut dire des choses très précises. Par exemple, être inscrit dans les fichiers de l'aide sociale d'un département et faire que c'est ça qui empêche qu'on trouve un logement social, ça, je peux vous faire revenir à l'antenne des personnes qui le vivent tous les jours. Et pire, parce que elles sont accompagnées par l'assistante sociale, ne trouvent pas de logement, alors qu'en y allant incognito, elles vont trouver un logement. C'est ça que ça veut dire, être discriminé à cause du non-comport, de l'histoire qu'on trimballe de pauvreté. C'est des choses comme ça qu'on veut faire avancer. Et encore une fois, plus dans les réflexions et la pédagogie, donc c'est dans la démarche de lutte contre ces idées reçues, plus que effectivement pour aller au tribunal.
Axel Brodier, je ne sais pas quel est votre point de vue sur le sujet, mais s'agissant de la discrimination, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit revenir à travers notamment les notions d'assistanat avec un chômage de masse qui est de plus en plus durable, disons, et qui renvoie peut-être à des discours qu'on avait peut-être oubliés pendant quelques années?
Alors, la personne qui vit au crochet de la société parce qu'elle en serait en partie étrangère, je viens d'apprendre que ça date de l'Empire romain. C'est vous dire que ça ne date pas d'hier, ça a toujours été ça. Ce qui est nouveau, par contre, à propos des figures de l'assistanat et des recompositions quand même des bons et mauvais pauvres, c'est que, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, les figures du mauvais pauvre, avant, c'était les mendiants et les vagabonds. Aujourd'hui, c'est le SDF. Aujourd'hui, le SDF n'est pas un mauvais pauvre. Aujourd'hui, ceux qui sont devenus des pauvres stigmatisés en particulier, c'est notamment tout ce qui est autour de la figure de l'étranger, ce qu'on entend sur l'assistanat, la fraude fiscale, etc. Et ça, c'est quand même historiquement assez nouveau, tout simplement parce que avant, il n'y avait quasiment pas d'assistance chômage, donc on ne risquait pas d'être assisté au crochet de la société, et ceux qui l'étaient, ils l'étaient parce qu'ils étaient vieux, donc ils avaient donné à la nation, parce qu'ils étaient jeunes, donc ils allaient donner à la nation, parce que c'était des femmes enceintes, donc elles allaient aussi donner à la nation, etc. Là, il y a un rapport à la contrepartie de ce qu'on apporte à la nation, qui effectivement a changé depuis les années 80 et avec le chômage massif. Mais pour en revenir à la question de ce débat, moi je ne trancherai pas en tant qu'historienne. Par contre, je pense qu'effectivement, on a un regard sur la pauvreté qui est des fois absolument scandaleux et que c'est par la sensibilisation. Et là, notamment, il y a un énorme travail qui est fait par les associations, qu'on pense à ATD, qu'on pense à Emmaüs, au rapport mal logement, etc., et qu'il y a un regard social à changer, il faut changer son regard social et porter un peu plus de bienveillance sur les gens qui sont à la rue et arrêter de croire que c'est un plaisir de toucher les allocs et qu'on est content de rester devant sa télé et de ne pas pouvoir éduquer ses enfants correctement. Ce n'est pas possible, c'est scandaleux à penser. Et là, il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire. Là, c'est plus la citoyenne qui parle que l'historienne. Mais vraiment, c'est faux. C'est faux. Donc, il ne faut pas faire reposer la société sur des préjugés.
Et la bienveillance, elle passe sans doute davantage par les actes que par les paroles. Julien Damon, je voudrais juste vous citer alors un témoignage qui a été posté aujourd'hui sur la page de l'émission, qui a été posté par une jeune femme qui manifestement travaille aux urgences à l'hôpital. Elle dit une salle de garde, donc une salle d'urgence, c'est un endroit où le langage est beaucoup moins châtié que les cendants du président, beaucoup plus imagé et concret pour décrire notre patientèle. Alors elle évoque par exemple quand ils reçoivent un SDF la nuit, ils parlent de plaie sur viande saoule, et il y a aussi la pute en fin de nuit. Et elle dit on ne soigne pas moins bien pour autant, c'est vrai en médecine, ça doit l'être de la même manière en politique.
Oh, ma première remarque, sans faire des propos de salle de garde, c'est que, en effet, on a un système de protection sociale qui, aujourd'hui, permet aux gens, aux urgences, en matière de couverture maladie, en matière de prestations, de se trouver dans des situations qui n'ont strictement rien à voir avec la période pré-RMI. Et si les associations sont toujours davantage présentes, il y a également des budgets publics qui sont toujours plus élevés chaque année affectés à la lutte contre la pauvreté. Dans la remarque de l'auditrice, enfin de la personne qui a envoyé cela, il y a aussi la question des mots et du politiquement correct. C'est-à-dire que oui, parmi les travailleurs sociaux, surtout tard le soir, parmi les gens qui font des maraudes auprès des sans-abri, le vocabulaire est moins châtié qu'à cette antenne et c'est plutôt sympathique que de se libérer de temps en temps avec des mots parfois confinant avec de la vulgarité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne respecte pas ces situations. Plus généralement, moi, j'aimerais dire tout de même sur la bienveillance qu'on peut partir de quelques images, quelques réflexions. Il y a des sondages, alors on peut ne pas aimer les sondages, mais c'est quand même la meilleure manière que de savoir ce que les gens pensent. Et barométriquement, c'est-à-dire depuis que l'on repère ces opinions, depuis 40 ans, nous disposons quand même de séries longues, il y a toujours une bienveillance exprimée majoritairement par les Français à l'endroit des pauvres, ce qu'on ne trouve pas dans la plupart des pays de l'Union européenne. En revanche, il y a des critiques de plus en plus prononcées à l'égard des dispositifs d'aide aux pauvres, le RMI en premier lieu, et c'est une des raisons pour laquelle on a fait le RSA, pas forcément totalement avec bonheur.
Est-ce qu'on sait, Julien Damon, si on est d'autant plus bienveillant à l'égard des pauvres qu'on est éloigné du risque de pauvreté ?
Ben, là, encore une fois, comme je faisais le malin à dire que c'était sur des chiffres solides, comme je n'ai pas le chiffre de ceux qui sont éloignés de la pauvreté et de ce qu'ils en disent, je n'en sais trop rien. Je dirais tout de même que d'expérience sur les populations sans-abri, qui sont des populations hétérogènes et qui se vivent comme hétérogènes, il n'y a pas plus critique à l'égard des autres sans-abri qu'un sans-abri qui va dire « Ah ben ceux-là, c'est des feignants, moi j'ai besoin d'être aidé ».
Jean-Christophe Sarrault, vous êtes d'accord avec ça? Et finalement, est-ce que les idées reçues et les peurs, la peur peur des pauvres, en tout cas la peur de la pauvreté n'est pas d'autant plus forte que l'on n'en est pas très loin.
Je ne sais pas. Nous, on a fait un sondage sur les préjugés qu'ont les Français sur les pauvres, qu'on rendra public le 17 octobre. Donc il faut peut-être attendre la réponse jusqu'au 17 octobre.
17 octobre, c'est la journée mondiale de refus de la misère.
Voilà, on espère que vous nous réinviterez à cette occasion-là pour présenter les résultats du sondage. Je redirais que donc, on a moins peur des gens quand on les connaît, quand on les fréquente, et surtout quand on est engagé dans des actions communes. Parce que si on les fréquente juste pour leur tendre la main ou dans une action de charité individuelle, c'est peut-être aussi un très mauvais moyen pour rencontrer les gens et comprendre vraiment ce qu'ils ont à l'intérieur.
Oui, mais si on se dit ça peut m'arriver à moi aussi parce que je suis dans une situation. Cela dit d'ailleurs, c'est peut-être ça fait partie des idées reçues hein, que vous évoquez dans le livre. Ça peut arriver à n'importe qui de devenir pauvre. Vous dites ça, c'est pas vrai.
Ça, c'est un fantasme entretenu par les médias, par certains médias et par la crise. Les personnes qui vivent durablement dans la pauvreté sont des personnes qui ont un parcours qui ont eu dès la naissance un parcours avec plein d'accidents. Que ce soit au niveau de l'école, de l'éducation, de la structure familiale, qui se répercute d'âge en âge. Et le cadre qui perd tout un jour et qui se retrouve à la rue se retrouve dans une autre situation, avec d'autres chances de saisir une branche quand elle se tendra à lui.
Donc c'est à la fois rassurant. Oui, Julien Damon.
Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est une idée reçue quand on souligne à l'envi, ça peut arriver à tout le monde. La chose qui est vraie, il faut ajouter une autre partie de la phrase, c'est ça peut arriver à tout le monde, mais absolument pas avec la même probabilité.
Axel Brodier.
Oui, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que le pauvre, en fait, il intrigue quelque part parce qu'il est à la fois un autre et soi-même. C'est bien ça, quand on a peur, le cadre qui tombe dans la pauvreté parce qu'il est divorcé, etc., ça terrorise tout le monde parce que potentiellement c'est soi-même. La personne au chômage, potentiellement c'est soi-même, même si effectivement c'est une idée reçue. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, il faudrait réfléchir à ça, qui se jouent suivant que si on regarde le pauvre comme quelqu'un qui représente l'altérité, ou quelqu'un on peut le dénigrer assez facilement ou y être indifférent. Comme un humain et un potentiel autre soi-même, mais ça aussi, ça cristallise des choses. Ça, c'est un peu anthropologique comme réflexion, mais je pense qu'il y a des choses à creuser là-dessus.
Je reviens sur cette publication, Jean-Christophe Sarrault, à propos des idées reçues sur la pauvreté et sur les pauvres. Est-ce qu'il y en a une pour vous qu'il est absolument essentiel en priorité de combattre parce qu'elle est particulièrement nocive et parce qu'elle induit peut-être des comportements qui renforcent encore justement les situations de pauvreté?
Je peux vous dire les deux parmi les plus répandus. Les préjugés qu'on a sur les personnes en pauvreté, c'est qu'ils sont spécialistes des aides. C'est des gens qui sont très doués pour bénéficier des aides sociales. Et ça se démonte en deux minutes, parce que si on regarde les taux de non-recours, on s'aperçoit que plus de la moitié des gens qui pourraient prétendre au RSA, à telle ou telle aide, ne font pas recours pour différentes raisons. Et le deuxième préjugé, c'est que la lutte contre la pauvreté et les pauvres et tout ça, ça coûte très cher aux classes moyennes. Et ça se démonte aussi assez facilement. C'est qu'on fait une grosse confusion entre le coût de la protection sociale, qui est effectivement assez élevé en France, mais qui s'explique aussi, mais bon, on n'a pas le temps de développer, et le coût de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure, c'est par année et par personne 239 € en 2011, ce que coûte la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, alors que ça, le coût de la protection sociale par année par habitant, c'est 10 000 €. C'est infime.
Julien Damon, ça coûte cher les pauvres à la société? Ça serait peut-être d'ailleurs le meilleur argument pour dire qu'il faut lutter contre la pauvreté parce que ça coûte trop cher.
De toute façon, ça coûte cher de fait aux personnes pauvres d'être dans la pauvreté parce que c'est, les économistes diraient, du capital humain qui s'évapore et puis des enfants qui naissent dans la pauvreté ont plus de difficultés, etc., etc. Donc, sur les chiffres qui sont donnés et qui sont exacts, si on prend le camembert de la protection sociale, si j'ose dire, si on répartit les différentes parts, la moitié de notre protection sociale, ce sont des retraites. Un tiers de notre protection sociale, c'est de l'assurance maladie. Et puis, on a une toute petite partie, hein, 2% de nos dépenses de protection sociale, ça doit correspondre à ces 200 € par personne par mois. Je ne sais plus, c'est par mois ou par année que vous avez fait le calcul. C'est pas grand-chose. C'est essentiellement d'ailleurs les dépenses de type RSA. Mais les gens qui sont pauvres, selon ce critère de 60% de la médiane des revenus, touchent d'autres prestations. D'autres ne sont pas pauvres parce qu'ils touchent d'autres prestations qui, sans être spécialisées, sont universelles, comme les allocations familiales. Et c'est parce qu'il y a des prestations universelles qu'il y a un soutien bon an mal an à notre système de protection sociale, qui est le plus coûteux du monde, mais c'est un autre dossier, hein, et avec, c'est vrai, désormais un ciblage que l'on souhaiterait croissant pour certaines associations sur les situations les plus difficiles. Mais ce qui est spécifiquement et explicitement sur la pauvreté, c'est vrai que ça paraît peu au regard de l'ensemble de la protection sociale qui quand même bénéficie aux pauvres. On a pris l'exemple des hôpitaux. Ben, les hôpitaux et les urgences sont des endroits où se dirigent prioritairement les gens qui n'ont pas de médecin traitant, par exemple. Et ça, ce n'est pas pris en compte comme des dépenses de lutte contre la pauvreté. Ce sont des dépenses d'assurance maladie.
Alors, je vous rappelle la question qu'on pose ce soir. Savons-nous parler des pauvres? On pourrait encore modifier légèrement ce titre et se demander, savons-nous parler aux pauvres? Puisqu'on a bien vu qu'il y avait cette distance qui est souvent problématique à propos de ce sujet. Et c'est justement l'occasion, et l'ambition en tout cas, d'un nouveau magazine. Bonsoir Mélanie Chalandron.
Bonsoir.
Magazine qui s'appelle « Debout ». Et qui sort la semaine prochaine, que vous avez eu le temps de parcourir.
Oui, Debout, c'est un magazine tout d'abord gratuit, dont le premier numéro sera disponible donc la semaine prochaine, le 16 septembre. Alors pas sur tout le territoire dans un premier temps, mais au moins dans les plus grandes villes de France, et qui sera distribué par des bénévoles dans la plupart des lieux d'action sociale. Son format est celui d'un magazine a priori tout à fait classique, un édito, des dossiers, des portraits, une rubrique culture et même des jeux. Sa ligne éditoriale, dédiée essentiellement à de l'information pratique, c'est ce qui fait sa différence, et elle est à destination de ceux qui vivent dans la précarité. Par exemple, pour ce premier numéro, on pourra trouver des conseils sur la manière de sortir du surendettement, de trouver un véhicule pour aller travailler, ou encore des idées de menus extra simples, je cite, pour la semaine. Et en prime, des fiches pratiques détachables, et cette semaine par exemple, obtenir la CMU. Alors, à la différence de journaux de rue, comme Macadam ou L'Itinérant par exemple, Debout est produit par des gens qui ne sont pas eux-mêmes dans la précarité. Nous avons donc demandé à sa fondatrice, Violaine du Châtelier, si le magazine avait une manière spécifique de s'adresser à son public.
Oui, il y a bien une manière particulière, non stigmatisante, à Bébête, de s'adresser à ce public. Nous avons écrit une charte éditoriale. On écrit court, on écrit direct. On fait pas d'humour du second degré. On écrit assez gros. On dessine beaucoup. Et on montre des vrais gens. C'est eux qu'on montre.
La rédaction qui donc assume un discours spécifique et adapté à son public et en même temps qui refuse d'enfermer son lectorat dans une catégorie qui le couperait du reste de la société.
J'ai fait vraiment un magazine qui est beau, qui utilise les codes usuels de la presse mag. Et donc j'ai voulu non stigmatiser mon lectorat parce qu'ils ont envie de la même chose que nous. Ils ont envie de vacances, ils ont envie de sport. On a une rubrique beauté, on se traite aussi les animaux. Ils ne sont pas à part. Hein.
Voilà, le premier numéro de Debout, c'est donc Mélanie
Chalandon. Le 16 septembre.
Voilà, la semaine prochaine. Je voudrais voir vos réactions à tous les trois, Jean-Christophe Sarrault, Axel Brodier. Et Julien Damon, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative, Axel Brodier ?
Oh bah, je trouve ça très très bien, évidemment. Sur la question de comment parler aux pauvres, ce qu'on peut dire historiquement, c'est qu'on est quand même passé de relations très très verticales à des relations beaucoup plus horizontales. Donc ça c'est bien, c'est comme ça qu'il faut continuer.
Jean-Christophe Sarrault ?
Oui, je trouve ça très bien. J'espère que le magazine comportera aussi de l'éducation populaire pour qu'on comprenne aussi pourquoi les gens se retrouvent dans des situations comme ça, qu'ils nous l'expliquent eux-mêmes, et puis qu'on comprenne qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les mécanismes pour que la pauvreté arrête de se développer en France, comme l'INSEE l'a plus ou moins montré dans ses dernières statistiques.
Mais un magazine spécifiquement destiné aux pauvres ?
Alors moi, je l'ai feuilleté, il est vraiment agréable et attirant pour tout public.
Julien Damon.
Alors moi je lui souhaite bonne chance. Quand une nouvelle initiative se met en place, on ne peut dire que cela. Je fais part, parce que vous me posez la question de réserve. Une première réserve, c'est puisque dans votre papier vous avez évoqué ce marché des journaux de rue qu'était Macadam, que demeure peut-être un peu L'Itinérant. Tout ceci s'est planté pour mille raisons. La première chose, c'est que précisément des produits réservés aux pauvres ne sont pas achetés. Là, vous allez me dire, c'est gratuit. Tant mieux si ça marche. Pour que ce soit gratuit, il faut qu'ils trouvent de la publicité. Mais il ne faudrait surtout pas qu'ils aient de subventions publiques. Public. Voilà.
Il nous reste 1 minute 30 à peu près, Jean-Christophe Sarrault, pour évoquer cette étude de l'INSEE. Je disais que ça n'avait pas eu beaucoup d'écho, on n'en aura pas donné énormément non plus finalement dans cette émission. Enfin, on a parlé de la pauvreté. Donc les chiffres de l'INSEE hier pour 2012, donc, qui témoignent à la fois d'un recul du nombre de pauvres, en fonction des critères qui sont ceux de l'INSEE, et d'une intensité de la pauvreté qui, elle, augmente nettement. Est-ce que ce que vous constatez sur le terrain correspond aux chiffres qui sont donnés par l'INSEE ?
Nous, on constate une aggravation constante de la situation, parce que les 200 000 pauvres en moins en 2012, c'est des personnes qui étaient sans doute situées au-dessus du panier, qui étaient juste en dessous du seuil de 60%, qui sont passées juste au-dessus. L'INSEE constate que pour les personnes qui sont sous le seuil de 50%, le nombre a augmenté au contraire. Donc la situation, les personnes les plus pauvres, il y en a davantage.
Voilà, la moitié des personnes pauvres vivent avec moins de 784 € par mois, c'est ce que dit l'INSEE. Les personnes pauvres sont globalement plus éloignées du seuil de pauvreté.
Voilà, et puis restent pauvres de plus en plus longtemps. Ce que je voudrais juste dire, c'est que par rapport... à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le critère de discrimination pour cause de pauvreté, si des auditeurs veulent se rendre sur la pétition en ligne jeneveuxplus.org, ils pourront découvrir des situations concrètes de discrimination vécues par des personnes récemment qu'on a listées et dont on se dit s'il y avait une prise de conscience du geste que font les personnes qui mettent de côté dans ces différentes situations que vous découvrirez, il n'y aurait pas ces mises à l'écart des personnes qui les repoussent encore plus dans une grande exclusion.
On n'a pas invité de pauvres ce soir pour parler de la pauvreté, Julien Damon, on aurait dû le faire.
Au vu de ce que je vous ai raconté sur mon expérience là, de bureaucrate du Grenelle de l'insertion, ça a toute son utilité, c'est vrai, à la condition express que ce ne soit pas quelqu'un à qui on tend un micro en disant « Ah voilà, bah, racontez-nous la pauvreté », qu'il soit quelqu'un très mal à l'aise, qui raconte des choses qui le mettent encore plus mal à l'aise et que ceci sombre dans le misérabilisme et ne sert à rien. Et d'où l'intérêt, c'est vrai, d'ATD en la matière qui sait accompagner les gens.
Il n'est pas possible que le malaise soit aussi de l'autre côté, c'est-à-dire côté de la personne qui pose des questions. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette discussion. Julien Damon, Axel Brodier, Jean-Christophe Sarraud. Donc la prochaine édition d'En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, ce sera le 9 octobre prochain aux éditions de l'Atelier.
Édition
Carmonde, c'est bien de le préciser. Demain, à la veille de la fête de l'humanité, nous poserons la question suivante. À quoi servent encore les communistes? Nous aurons deux anciens militants, enfin non, un qui l'est toujours et l'autre qui est parti. Ce sera une discussion entre deux. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.